Bonjour les démons, bande de démons, bonjour, vous m'avez manqué. À tel point que je me demande si c'est pas moi qui suis un peu démente, parce que je sais pas quel jour on est, je sais pas quelle heure il est. Et ça c'est à cause de... Ah bah c'est à cause du podcast. Parce qu'avant, t'écoutais la radio, tu savais qu'on était à 6h du matin avec machin, et puis que demain, il reviendrait. Alors que là, je sais même plus si on était hier, ou si on sera demain, ou si on est aujourd'hui. En tous les cas, c'est les démons de midi, et il n'est peut-être pas midi. Bonjour mes invités chéris. Alors moi, mon invité chéri c'est Jean Avezou. Parce qu'un jour, je ferai une émission sur lui. Mais il nous faudra toute une série. Et puis, mon autre invité chéri, c'est Chris. Elle est de l'autre côté avec son petit bonnet de marin. Et ça tangue quand elle est là. Waouh, c'est beau la radio. Et puis, nous avons un invité et je suis fébrile. Ça s'entend. Hein. Je suis contente parce que la dernière fois, on a discuté dans le train et ça nous avait pris une heure. Et là, on a une heure pour continuer.
C'est mal barré.
Nous invitons aujourd'hui Jean-Cyril Vadi.
Bonjour.
Et c'est qui?
Ah.
Ah.
Oh, le joli jeune homme que voilà. Je précise pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, il a le profil aigu, le regard vif, la mèche tombante, la parole volubile. Il a tout du néo-romantique, ce genre qui plaît tant dans les cafés branchés vegan et dans les chaumières enfumées du Haut-Vercors. En fait, on doit dire végan ou vegan pour qualifier les cafés.
Mais qu'est-ce qui vous prend? On s'en fiche, quoi. Mais non, vous avez regardé son CV?
Quand je rencontre quelqu'un, ça n'est pas son CV que je regarde en premier.
Ah, hein. Bon, jeune homme, ouais, ou homme moins jeune, bon, passons. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? C'est ça la question.
Ouais, il fait beaucoup de choses, et en même temps, comme on dit, semble-t-il. Par exemple, il est intervenant auprès du cabinet de consulting expert ICE de Genève en pilotage de crise et scénarisation.
Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, je ne sais pas, il faudra lui demander. Et puis aussi, il a donné des masterclass 6 à l'Académie nationale de Klaipédia et aussi à l'incubateur cinéma de Vilnius.
Je crois que vous avez besoin d'incubation, c'est vous quoi.
Hein,
ben,
c'est... Sais,
c'est quoi ça?
Je sais pas, il faut lui demander. Il a fait aussi du cinéma. Il a joué le rôle d'un jeune homme mort qui revient à la vie dans un film russe. Et aussi... un rôle muet de Thanatopracteur dans un film intitulé Nécrofolie.
Alors vous voulez dire qu'on va faire une interview muette avec de la Thanato Mais c'est pas vrai, mais pourquoi pas? Il a qu'à écrire des scénarios aussi, puis il a qu'à boxer, puis il a qu'à le faire en lituanien.
Ah bah tout juste, il a fait ça, et même du russe. Et il a fait des films où il joue dans des œufs du funiculaire de Grenoble avec une comédienne qui a l'air aussi allumée que lui.
Non mais il vous en faut combien d'œufs pour faire une omelette, vous? Ah, parce qu'il n'a pas trouvé plus petit comme espace scénique. Il n'est pas un peu fada, non?
Ben, je ne sais pas non plus, il faudra lui demander. Mais avouez que c'est fort tout de même, hein, pour un jeune romantique. Hein. Et même, si vous voulez savoir son poids, sa taille, ben, pas besoin de le lui demander, c'est indiqué sur son CV.
Bon, ben, d'accord. Alors, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on lui demande?
Ben, je ne sais pas, on pourrait lui demander ce qu'il pense de ce portrait, par exemple.
Je réponds alors.
Bon, écoutez,
moins que vous ne pensiez pas.
Vous m'avez fait beaucoup rire. Je ne sais même pas quoi rajouter. Vous avez tout dit. Je pense que l'émission est terminée.
Ah non.
Bon, musique.
Non, c'était super. Bravo. C'est une belle synthèse de ce que je ne suis pas. Ou ce que je suis. On voit que vous me connaissez bien, en tout cas. Non, je reviens. J'ai retenu un mot qui me fait un peu bondir. C'est le mot vegan. Mais Dieu merci, vous ne m'avez pas assimilé avec... avec un vegan.
Vegan?
Un vegan, non?
Ah, je sais pas, c'est comme vous voulez.
Ouais.
Hein.
Ça dépend du sexe. Si c'est indéterminé, ça, c'est votre problème.
Non, mais parce que je trouve qu'il y a dans le... j'adore les... je suis végétarien, donc je peux parler de véganisme. Ah. Mais je trouve qu'il y a dans l'industrie du véganisme et dans sa philosophie quelque chose d'assez mortifère. Et de très curieux, c'est qu'ils n'ont de cesse d'appeler ce qu'ils fabriquent de manière industrielle, hein, quand même, les produits... par des dérivés de noms qui viennent de la boucherie.
Ah ouais?
Steak vegan, saucisse vegan, hamburger vegan, etc. Donc je trouve ça assez curieux finalement. C'est... Voilà.
Manteau vegan.
Manteau vegan.
Fourrure vegan.
En peau de bison vegan.
Bah, voilà, la question inaugurale, c'est oui ou non, est-ce que vous êtes un peu fada?
Non, je ne sais pas. Non,
on va vérifier. On a une heure pour ça. On a tous les moyens de vous faire parler, de le vérifier. Alors, nous vous invitons à votre tour à vous présenter. Alors, allez, en 30 secondes, sans exagérer, et vous avez droit au lituanien.
Je vais laisser un petit peu de côté la version déjantée. C'est vous qui êtes fada du portrait, parce que elle était super bien réussie.
Vous vous souvenez du titre de l'émission ?
Les démons de midi.
Oui, bon.
Mais il y a du démon là-dessous.
On m'entraîne au bout de la nuit. Alors, non, mais moi, je n'ai rien à dire. En fait, je suis acteur, metteur en scène, scénariste et formateur. Voilà pour la partie professionnelle. Et puis pour la partie... oui, c'est carré un peu.
Formateur, c'est formaté ou...
Ah
non, je ne crois pas, d'autant que j'improvise beaucoup. Ces formations, elles sont surtout issues du contact avec le réel. Donc non, les formations, c'est pas formaté. Enfin, je sais pas, je crois pas.
Bon, d'accord, non. On vérifiera.
Ouais, on peut vérifier. D'ailleurs, je fais de la formation davantage pour apprendre moi-même qu'enseigner aux autres. Voilà. Et puis pour la partie un peu moins professionnelle, que dire je suis constamment à la recherche de ma place dans ce monde. Oh. Voilà pour l'illégitime.
Ah ben ça, alors là, ça nous en mastique une fissure. Hein.
Oh
ça, alors bon.
Ils sont complètement dingues dans cette émission. Laissez-moi sortir.
Quel langage imagé, c'est terrible. Hein. Je ne vous connaissais pas comme ça, à ce point-là.
Bon, vous dites quelque part qu'en 90, vous partez vivre la vie d'un autre. Mmh. Bon, c'est de l'usurpation d'identité, ça.
C'est vrai, tout à fait. J'ai voulu devenir Jean Avezou, mais non.
Ah ben, alors, vous n'êtes pas le seul.
Il y a du boulot. Hein.
Ouais,
non, mais ouais, mais pourtant c'est comme non, mais c'est comme ça que je l'ai de manière un peu concise exprimée, effectivement, bon, de façon un peu littéraire aussi, mais c'est ce qui s'est passé quand même réellement. D'ailleurs, j'étais pas très loin parce que j'étais à la fac là à Grenoble et je me suis dit j'étais en fac de lettres ou de philo, je sais plus, et j'en ai eu marre et je me suis dit je vais aller vivre la vie de Gombrowicz, qui était un peu mon idole.
C'est qui Gombrowicz?
Gombrowicz,
c'est un poète. C'est un poète.
C'est un romancier. Non, je croyais qu'il soit poète. Un plus romancier, si. En fait, qui a écrit Ferdi Dirk, oui. Bakakai, La pornographie, Le transatlantique, un auteur polonais. Donc, cet auteur polonais a immigré pendant 24 ans, émigré donc en Argentine. Et je me suis dit, comme sa vie me passionnait, son œuvre aussi, plutôt que de ne pas savoir quoi faire de ma propre vie à moi, je vais vivre la sienne. Aller dans les cafés qu'il a vus, dans lesquels il est allé, arpenter les rues qu'il a arpentées, essayer d'écrire moi-même, etc.
Puis et vous nous traitez de fada.
Mais j'étais détourné de cette ambition par un prof de fac qui m'a envoyé en Lituanie directement.
Ah ouais,
c'était le goulag.
Ah, c'est la punition.
J'ai pas dit non, donc c'est, vous voyez, quand même quel genre de mec je suis.
Allez, hop, en Lituanie.
Bon, alors avant la Lituanie, moi j'ai un rôle à tenir ici dans cette émission. C'est un peu celui de Christine Dolto. Et j'aimerais que vous me disiez, c'est quoi l'enfance pour vous et est-ce que ça a duré? C'était comment quand vous étiez plus petit?
Ah, alors, si j'avais su, je ne serais pas venue, comme disait. L'enfance. Oui, je crois qu'elle a duré. D'ailleurs, ça, à mon avis, elle dure d'ailleurs encore. Hein. L'enfance, c'est d'abord un paradis perdu pour moi. C'est vrai que je dois quand même avouer, même comme ça à la radio, que je ne garde de l'enfance... Enfin, d'une certaine manière, je n'ai sauvé de l'enfance que ce qu'elle avait de merveilleux. Et j'y reviens toujours. D'ailleurs, la prochaine création qu'est la mienne, là, sur Maradona, c'est davantage un récit sur l'enfance et sur les anges aussi, à qui on coupe les ailes, et sur les aspirations et les frustrations de l'enfance, que sur le football, ou, voilà, par exemple, ou sur les idoles. Et donc voilà, j'ai gardé, quand je dis que j'ai gardé de l'enfance que ce qu'elle avait de merveilleux, enfin, je veux dire, je ne suis pas du tout dupe de la dureté de l'enfance aussi, ou de ce que moi-même j'ai, voilà. Mais enfin, j'y reviens comme un pays duquel on a été exilé et vers lequel on revient toujours.
J'ai rien compris, mais c'est sympathique.
Oh, moi, j'ai compris, mais parce que vous écoutez pas, vous pensez déjà à la question suivante, mais vraiment, c'est comme ça que vous faites de la radio? C'est comme ça que vous me l'avez apprise?
Oui.
Oh. Bon, alors, l'enfance, c'est un pays, vous voyez, Jean? C'est un pays où l'on peut revenir, mais dont on peut se sentir exilé. C'est ce que dit Jean-Cyril Vadi, notre invité. Il faut même faire de la traduction quand ce n'est pas en lituanien.
Voilà,
comment voulez-vous qu'on y arrive?
Mais écoutez, cette émission est sous-titrée, profitez-en.
Et c'était où, cette enfance? Concrètement,
là,
géographiquement, c'était là, à Saint-Martin-d'Hères?
Non, quand même pas.
Ah, quand même pas.
Non, ouais.
Oh, non, quand même pas.
C'était presque d'aussi mauvais goût, hein. C'était à Échirolles.
Ah.
On peut dire qu'il y a une fraternité, déjà idéologique entre Échirolles et Saint-Martin-d'Hères.
Une fraternité de banlieue, comme on utilise ce vilain mot aujourd'hui pour tout mettre et tout rien dire.
Voilà, c'est la même banlieue que Calogero, que je salue s'il nous écoute, puisqu'on était à l'école ensemble, et au même collège. Et c'est un collège Pablo Picasso.
Ouais.
Et avant, c'était l'enfance quand même à Échirolles. D'ailleurs, l'enfance, ça se situe avant le collège pour moi. Mais... Donc c'était ça, Échirolles. Qui vient du mot écureuil, me semble-t-il.
Oui, c'est, ça, c'est joli.
Et salut, amis échirolois.
Et est-ce que chez vous, à Échirolles, au pays des écureuils, dans l'enfance, avec Bambi et tout ça, est-ce qu'il y avait chez vous...
C'est vrai quelque chose d'écureuil. La queue en panache, on ne peut pas se prononcer parce qu'on est assis, mais...
Est-ce que chez vous, il y avait déjà la présence des livres, du théâtre, de la culture?
Alors, d'abord, je vous avertis que si vous me faites rire, je ne vais pas pouvoir répondre aux questions. Parce que je vais très vite devenir spectateur de vos dingueries, ça m'amusera beaucoup. Mais il faut que je revienne à moi avec vos questions, qui somme toute sont sérieuses, Christine.
J'essaie.
Est-ce qu'il y avait des livres autour de moi?
Oui, livres, alors, un accès à la culture, au théâtre, tout ça.
Qu'est-ce que ça veut dire que ces mots-là?
Voilà.
Des livres, il y en avait. Ma mère lisait beaucoup, elle lit beaucoup. Mon père aussi, un peu moins à l'époque où j'étais enfant, mais il s'est rattrapé à la retraite. Mais... En fait, ce ne sont ni l'école, ni mes parents qui m'ont... bien que ma mère m'a toujours soumis des livres à lire, parfois fermement, parfois non, mais ça a toujours un peu échoué. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et l'école aussi, d'ailleurs, j'ai lu très, très tard. Moi, j'ai lu... j'avais déjà quitté l'école quand j'ai commencé à lire, vraiment. Parce que d'abord, je me suis soucié d'écrire. Je n'ai jamais cessé d'écrire, par contre. Dès l'âge de 6-7 ans, j'écrivais déjà des petites histoires. Je suis retombé sur des histoires qui faisaient 2, 3, 4 lignes, parfois une page. Voilà, donc... Et puis ensuite, adolescent, je vivais dans le mythe de « il faut absolument pas lire d'auteur si on veut écrire, sinon on va faire que recopier », enfin des trucs comme ça. Un truc un peu débile de ce genre.
Oh, je l'ai pas dit.
Alors, c'est moi qui le dis. J'ai griffonné, écrit des tas de livres... D'ailleurs, deux livres, enfin de carnets, qui ont disparu, d'ailleurs, dans 2 ou 3 déménagements successifs. J'ai dû en sauver 2 ou 3 de ces carnets. Alors
quelque
qu'il y en
avait
admiratrice, des
sans doute, peut-être, qui s'est appropriée.
Non, je crois pas, c'était moins romantique que ça. Vous avez vraiment une vision un peu de moi avec cette mèche et cette queue en panache. Non, c'est beaucoup plus, j'ai dû perdre un carton, tout simplement.
C'est d'un goût.
Et quant au théâtre, alors, j'ai envie de dire non, pas du tout. J'ai découvert le théâtre ultra tard. Hein. Je ne savais même pas que les conservatoires existaient, mais pour autant... Qu'elle soit remerciée et paix à son âme. J'avais une tante qui s'appelait Germaine Vadi,
oui,
qui vivait dans les affiches.
Oui, moi je l'ai connue.
Voilà. Et qui, elle, m'a tout de même... avec qui j'ai discuté théâtre, c'est vrai.
Elle arpentait, elle était un pilier des théâtres des années 80-90.
Voilà. Tout à fait. Elle avait beaucoup d'admiration pour Diden Bérandame et puis pour d'autres... pour le théâtre en général.
Mais alors, vous tâtez de la musique et puis vous quittez la musique pour le théâtre et vous dites « comme on quitte une femme pour une autre ». Bon, quelques mots de commentaire.
Sous-titrage, il rit loin du micro.
Non, mais
il revient
parce que je ne sais pas si... j'ai pas compris, en fait, Chris, tu peux me dire, cette lumière rouge, en fait, ça signifie que je peux parler ou que je... C'est ça?
On t'écoute.
S'il n'y a pas de lumière, je peux rire et je ne suis pas en ligne.
Pas de suite.
Ah,
pas
c'est
de suite.
Merci, Chris. Christine. Alors, j'ai dit ça, oui, bon, j'ai dit ça, enfin, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est un peu l'effet que ça m'a fait, en effet, parce que... d'abord, j'étais pas vraiment musicien. C'est pas parce que je jouais du rock dans un groupe de jeunes gens désœuvrés dans les cafés lituaniens que j'avais du talent pour ça ou voilà. Mais à un moment donné, en fait, si vous voulez, la musique, je me suis dit, c'est vrai, j'étais étudiant à cette époque, mais en Lituanie, je me suis dit que la musique était. Comment expliquer ça ? J'avais besoin d'autre chose, en fait, hein, de d'éprouver autre chose. J'avais besoin de mots, j'avais besoin de retour au texte. J'avais besoin de plus de littérature, voilà,
mais ça
etc.
Ça veut dire que le rock'n'roll, ça dirait pas autant que le théâtre et la littérature. Non, mais n'importe quoi.
Non, mais...
Ce qu'il faut pas entendre.
Non, mais
c'est vrai.
Je n'ai jamais mis...
Quand même, c'est comme on quitte une femme pour une autre.
Oui, mais c'est... c'est parce que parfois... parce que c'est une mauvaise raison de quitter une femme pour une autre femme.
Ah, ça, c'est beau.
Voilà, je veux dire que ce n'est pas une bonne raison. Il se trouve que je l'ai fait, mais à mon avis, la raison n'était pas bonne. Voilà. Ce n'était pas un désamour vraiment non plus pour la musique, cette attirance pour le théâtre, même si là, je vous dis, j'avais des doutes sur ce que pouvait ma place dans la musique et ce qu'elle me donnait à ce moment-là. Mais non, j'ai décidé, c'est une rupture qui n'est pas... c'est la rupture avec la musique que je continue à aimer pour autant. Voilà, c'est plus...
Et par exemple, écrire pour la musique, aujourd'hui, ça serait possible d'écrire des chansons ou, je sais pas, des nouvelles chantées, musiquées
Ah, mais si Bachung a besoin de moi, je dirais oui. Ah merde, non, il est mort. Mais enfin, ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Oui, ce serait possible.
D'accord. J'ai noté ça aussi.
Bon, et du théâtre au cinéma, vous ne tenez pas en place, c'était pas bien non, le théâtre, alors là... pas suffisamment bien le théâtre.
Il n'y a pas assez d'images.
Ça, alors. Non, mais disons que... Alors, il faut vous dire que là, on est en Lituanie, on est au début des années 90, dans un pays qui...
Je vous dis qu'il est dément, on n'est pas en Lituanie, là. Hein.
Non, mais quand... À l'époque où ça s'est passé.
D'accord.
Et en fait, non, mais on est dans un contexte qui différencie assez.
Il a bien fait de garder son anorak.
Ça différencie. Non, mais à ce moment-là, autour de moi, il y a peu de différence entre le cinéma et le théâtre. Ce sont les mêmes qui le pratiquent. Le cursus, il y a et du cinéma et du théâtre. Les metteurs en scène avec qui vous travaillez sont à la fois à la télé, au cinéma et au théâtre. Il en va de même pour les acteurs. C'est beaucoup moins, voilà, beaucoup plus poreux, on va dire, et perméable. Et puis, voilà, donc c'est aussi... C'est aussi ça, en fait. C'est un passage de l'un à l'autre, tout en faisant aussi autre chose, hein, parce que je n'ai eu de cesse de donner des cours de français dans les écoles, dans les villages, etc.
Et tout ça, ça a duré combien de temps, votre immersion à l'Est?
En fait, je ne sais pas. Elle devait durer un an, puis finalement, je crois que j'y suis resté. Ma mémoire me fait défaut avec le temps qui passe, mais de 80... Vous connaissez ça, Jean? De 94 à 99.
Oui.
2000. Et ça continue.
Oui, j'y vais régulièrement. D'abord, j'y ai gardé des amis, et puis parce que j'ai des contacts. Là, je retourne, dans un mois au Festival international de théâtre de Klaipeda, où je suis invité en tant que metteur en scène. Et donc, j'ai des projets. On y a monté le retour de Baptiste, voilà, là-bas. Je continue à avoir des liens avec des réalisateurs. J'ai animé un stage de scénario dans un incubateur. Enfin, voilà, je suis allé voir le père Stanislavas juste avant... Qu'il ne meure. C'est un homme, c'est un père, un prêtre qui s'était exilé dans un petit village dans lequel il vivait un peu en autarcie, où il faisait des miracles et dispensait des sermons, un type assez extraordinaire. Mais j'ai voulu toujours faire un documentaire sur lui. J'ai embarqué d'ailleurs un jeune documentariste qui avait gagné un prix d'ailleurs de l'école de documentaire en Ardèche. Là, il y a un nom à cette école, je l'ai aussi oublié. Et nous sommes partis ensemble. Et quand nous y sommes allés, il était gravement malade et sur son lit de mort. Et donc, nous avons recueilli, malgré nous, finalement, ses dernières paroles. Et nous l'avons filmé parce qu'il a accepté qu'on le filme d'abord sur son lit, dans son... presbytère ? Non, pas du tout. Comment s'appellent ces maisons qui sont attenantes aux églises dans lesquelles les prêtres vivent là. Bon, bref, ça a un nom, enfin, chez lui.
Oui, c'est ça.
À l'hôpital. Et puis, finalement, nous n'en avons rien fait. D'abord, parce qu'on a trouvé ça un peu indécent. Et ensuite, parce que ce matériau était trop fort pour nous. Et justement, j'ai donné...
Mais tout ça, c'est pour de vrai ?
Ah oui, là, c'est pour de vrai.
Là, il n'y a pas eu de miracle.
Ah, en le concernant, il est mort, oui, mais... Enfin, il est mort, oui.
Miracles, il en a fait.
Ah oui, il a fait des miracles,
Ça, c'est balèze.
N'est-ce pas, Jean?
Mais alors...
Votre fond Saint-Martin des Rois, comment on dit, les habitants de Saint-Martin d'Air?
Les Martinets-Rois, je crois.
Vous êtes beaucoup plus
au sud. Beaucoup plus sudiste, oui. Et sans miracle.
Enfin, voilà, bref, donc j'y retourne, oui.
Oui, alors...
C'est moi, la question. C'est vous?
Ah bah je vous en prie.
Je déteste la galanterie.
Si je suis trop long, vous couperez. Hein.
Allez-y, Jean.
On ne
coupe rien.
Bon.
Jean, je vous écoute car je ne veux pas céder à la galanterie.
Parce qu'il nous dit j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai fait l'écriture.
On se demande ce qui est vrai, ce qui n'est pas.
J'ai fait des miracles, je sais pas quoi. Et tout ça sans jamais avoir appris, apparemment, quoi. C'est les dons du ciel. Et vous avez aussi appris le métier de jongleur, peut-être, non?
Ah non, malheureusement, non, je ne sais pas jongler. Non, mais tout ce qu'il faut apprendre et ce qui est un peu technique, je suis assez paresseux. Bon. Je ne sais rien, absolument rien faire, en fait. Ah
oui. Alors, vous nous parlez, là, on a beaucoup parlé lituanien et Lituanie. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'image de la culture française là-bas? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils pensent ou rêvent ou fantasment de nous ou savent de nous? Alors, et de notre culture?
C'est une très bonne question, Christine, et je vous remercie de me
l'avoir
posée.
Comme toutes les questions de Christine.
Alors, en fait, je peux répondre actuellement... Alors, si, je peux quand même dire quelque chose, c'est qu'en 95... Oui, oui. En 95, la France était un pays... une terre un peu fabuleuse, romancée, intrigante...
Romantique.
Mais qui avait... Oui, et puis qui avait... D'abord... parce que ça venait aussi de la diplomatie, du fait que la langue avait été enseignée à l'école pendant très était une la langue principale à part le russe, voilà, etc. Et donc l'image même de la France était vraiment la France était rayonnait culturellement. Là, voilà, j'y retourne régulièrement et depuis quand même on va dire quelques années, on se soucie très très peu de la France. Les gens ne parlent plus français,
ils parlent anglais.
Oui, ils ne parlent plus russe non plus, malheureusement. Et ça va être mon pont, le pont que je vais faire, les liens entre l'amour de la France et la connaissance de la culture russe en général. Parce que, par contre, en Russie, la France est toujours un pays, pas idéal, hein, idéalisé, mais un pays pour lequel les Russes ont beaucoup d'amour et d'estime. D'ailleurs, pour les attentats, pour commémorer les attentats, enfin, pour manifester leur amour lors des attentats de Charlie Hebdo, j'ai une amie qui m'avait envoyé une photo, on voyait une queue devant l'ambassade de France à Moscou, de 1,5 km de gens avec des fleurs. C'était complètement dingue. Donc là, non, en Lituanie, ils ont été complètement colonisés par... Leur imaginaire est désormais colonisé par l'Amérique, tout comme le nôtre du reste, mais ça a été ultra rapide.
Merci pour cette réponse.
Et alors vous dites à un moment
Parce que moi de la Lituanie, je ne sais rien. Et de sa culture, et de sa langue.
Ouais, mais si peut-être Korchunovas, non, vous ne voyez pas se mettre en scène, Varnas, des gens qui sont passés
Varnas,
plus ou moins par là.
Vous parlez d'arrachement, de goût de terre quand vous êtes revenu dans ces pays. Oui. Ah ben il n'assume même pas ce qu'il écrit.
Non, mais c'est...
D'abord, c'est noir sur blanc.
On a pu écrire quelque chose un moment, puis ne pas le penser le lendemain, enfin me concernant. Oui, ce goût de terre, j'ai dit ça, c'est beau. Je ne savais pas que j'étais capable de dire des choses comme ça. Un goût de terre, oui. Il y a un très bon roman de Tchepanovitch qui s'appelle La bouche pleine de terre. Donc, je vous conseille la lecture, d'ailleurs.
Je note.
Voilà. On notera ça aussi sur le site.
Oui, un goût de terre, parce que en fait, c'est vrai que ça a été aussi pour moi une épreuve du réel. D'abord très charnelle, parce que ça a été l'épreuve du froid, l'épreuve du manque d'argent, l'épreuve aussi de... Voilà, tout ça. Et puis, mes premiers travaux agricoles. Moi, je suis plutôt d'une famille prolétaire et pas paysanne. Et là-bas, j'ai mis les mains dans la terre. Et puis, parce que cet exil m'a fait prendre conscience, je pense, de qui j'étais vraiment. Et m'a vraiment mis les pieds sur terre aussi. Et puis c'est une manière, pour moi peut-être avoir dit ça, c'est aussi une manière d'avoir voulu dire que j'étais né à moi-même, sans doute autrement, par la terre, quoi. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire.
C'est pas mal, vous comprenez assez bien. Nous, on essaie de suivre, mais vous semblez savoir qui vous êtes.
Il est bien compréhensible. Bon. On rappelle peut-être
On rappelle où on est, qui on est. Oui. Alors, il s'agit des démons de midi, parce que nous ne sommes pas tout à fait démons et qu'il n'est pas tout à fait midi, mais quand même, en présence de Jean-Cyril Vadi.
Ou pas.
Mais si c'est lui, metteur en scène, auteur, acteur, vous l'entendez quoi. Jean Avzou, vous commencez à le connaître, et puis Chris, de l'autre côté, qui veille à tout et à ce qu'on s'entende.
Et tout ça, c'est sur quelle radio ?
Ah, c'est sur Radio Campus.
Ah, bon !
Et puis, puis ça doit être 90.8.
Oui, ça n'a pas augmenté.
Vous savez que j'ai animé...
ça, non !
Je m'excuse d'interrompre, mais malgré tout, je suis l'invité, j'ai une heure, j'en profite. J'ai animé une émission à Radio Campus quand ça s'appelait Radio Brume.
Ah oui, moi aussi !
C'était pas ici, une émission littérature et de musique qui s'appelait Todomodo, avec un ami à moi qui s'appelle David Vermeil, que je salue.
Mais ça ne rajeunit pas.
C'est trop joli. Alors moi, mon émission, elle s'appelait Schwartz. Comme le noir sur la scène.
Moi, j'avais pas d'émission.
Oh là là, j'étais petite et c'était brune.
Moi aussi, j'étais à peine née.
Bon.
On passe à autre chose.
On parle,
mais un peu de musique sur cette radio, ça nous ferait pas de mal. Alors, on vous a demandé de choisir, d'apporter un morceau, une chanson, un beau morceau. On parlait boucherie au début, un beau morceau de musique qui vous accompagne depuis longtemps et que vous voudriez partager avec nous, nos auditeurs, et qui ne dure pas 25 minutes comme
une
œuvre lituanienne contemporaine et pleine de cordes, de percussions. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors, d'abord, ça a été très, très, très difficile.
Ah, mais c'est
vraiment
difficile, cette émission, c'est difficile.
D'abord, parce que malgré tout, je me suis rendu compte que, à mon corps défendant, comment dire, qu'il y avait plus de chanteurs que ça que j'appréciais finalement. Voilà, et donc j'en ai choisi un. Là, il s'agit de Gabriel Yacoub et d'une chanson qui s'appelle « Je resterai ici ».
Alors, on découvre et puis on désannonce, comme on dit à la radio.
Alors, par contre, c'est pas celle que tu m'as dite.
Ah bah, ça y est.
Ah bah, voilà.
Ah, là, on est en... Ça, c'est coupé, ça.
C'est coupé.
Génial. Pourquoi ?
Moi, j'ai pas celle-là comme titre, en fait. Je vois venir.
Non, tu sais, je resterai ici, tu sais, c'est ce que je t'ai dit, tu sais, quand on s'est vu toutes les deux.
Bah oui, mais justement, en fait, c'est celle-là qui est là.
Ah, d'accord. Et tu peux pas trouver Je resterai ici.
Mais, bien sûr, c'est possible.
Elle est juste dessous ou dessus sur YouTube.
Bah, je vais la taper parce que là, je la vois pas. Alors, je reste.
Merci, Chris.
Merci, Chris.
Tout ça, ça va se faire au détriment de l'émission.
Ah bon ?
Non. Bah oui, parce qu'il va être à 13h.
En faveur de l'émission.
Non, mais ça va aller.
13h, il faut
aller.
Avec les mêmes mobiles.
Je parlerai moins, hein, c'est pas grave.
Moi aussi.
Non, tu la coupes, la chanson.
On pourra la réintroduire, écoute alors.
Non, il vaut mieux la voir. Elle
est oui, bien sûr.
Moi
je resterai ici. Je ne partirai pas. Même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là. Pour la couleur du ciel. De ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. Tu peux partir en guerre contre n'importe quoi. Et suivre la musique qui marche au pas. Dis-moi ce que tu veux, moi je ne t'écoute pas. J'ai d'autres rêves à faire que celui-là. Je resterai ici, je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs, mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. J'écoute en souriant. Ces fausses nouvelles qui vont et qui s'en viennent comme un océan, comme la fausse monnaie qui passe de poche en poche, me laissant ni plus riche ni plus malin qu'avant. Je resterai ici, je ne partirai pas. Même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs, mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. À l'autre bout du monde, tu vas brûler ta vie, tu défais tes amours. Tes amis, et on connaît ton nom jusqu'à Jérusalem. On ne vieillit jamais près de ceux qu'on aime. Je resterai ici, je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. Je resterai ici, je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas. Je resterai ici, je ne partirai pas, même si je sais par cœur qu'il fait toujours meilleur ailleurs. Mais je resterai là pour la couleur du ciel, de ces jours de grand vent qui n'en finissent pas.
Waouh, c'est un peu votre alter ego, vous de contraire, parce que lui il veut rester quelque part. Et vous, c'est la tangente.
Oui, ben...
C'était Gabriel.
C'est une réponse à... Oui, c'est une réponse à ce qu'on... aux 20 minutes qu'on a passées ensemble. Et puis, c'est pas parce qu'on est dans le zig qu'on n'est pas dans le zag non plus. Hein.
Ah. Ah, là, je vous suis.
Non,
ah,
mais,
là, je suis d'accord.
Ah. Ça, c'était pour Jean.
Ah,
oui,
là, je suis d'accord.
Oui, oui, là, c'est vrai que voilà. Moi aussi, finalement. Hein. C'est son avis et on le partage.
Mais bon, c'est aussi pour le silence, c'est pour la manière dont ça chante, c'est pour... C'est aussi parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps non plus à Grenoble, enfin aussi, pardon, Gabriel Yacoub, Malicorne.
Mmh. Il me semblait Malicorne. Bien que c'était sa voix.
Voilà.
Un quelque chose de traditionnel quand même.
Ah oui, j'adore ça aussi. Un petit peu à la fois éternel et un peu troubadour. Un peu...
Donc pas que rock, mais folk, Jean-Christophe,
oui.
Jean-Cyril Vadi.
Oui, ouais. Plus folk en fait.
Plus folk.
Bon.
Ah, c'est à vous là, hein,
oui,
monsieur
c'est...
Jean.
Eh bien, voilà.
Monsieur
alors...
Jean, c'est encore à vous, toujours à vous.
On vous a demandé...
À vous, Cognac G.
Cognac Jean.
De nous indiquer quelqu'un qui vous connaît bien et qui pourrait vous poser notre fameuse question étrange venue d'ailleurs. Et vous avez choisi, vous nous avez indiqué, Claude-Henri Buffard. Alors, qui c'est Claude-Henri Buffard?
Et pourquoi lui faites-vous confiance à ce point-là?
Oh ben, il y a peu de gens à qui je fais confiance, autant qu'à Claude-Henri. En fait, j'ai trouvé que c'était une manière aussi de rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est, si je dois une partie de mes errances et de mes réussites dans le théâtre, c'est grand, quand même à Claude-Henri. Parce que la première pièce que j'ai montée, c'était une pièce dont il est l'auteur, qui s'appelle La Minute de Silence, et ensuite Jeanne Heureuse, directement après, au Théâtre du Rio, avant qu'il ferme. Enfin, avant que ça devienne autre chose qu'un théâtre, dans la salle du haut, la chapelle. Et c'est grâce à Claude-Henri que j'ai rencontré, suite à après avoir monté ce texte, que des personnes comme Jean-Paul Angot sont venues voir mon travail à ce moment-là.
Le directeur de
voilà.
La Maison de la Culture Grenoble.
Voilà, et puis du coup, c'est quelqu'un qui m'accompagne tout le temps, jusqu'au bulle pop qu'on a coécrit ensemble.
On va en
ensemble.
Parler de
voilà.
Ces bulles pop.
Donc, à la fois, c'est mon intime étranger.
Ah.
Voilà, c'est un ami.
Alors, une question intime et étrange, je pense. On l'écoute.
Bonjour Jean-Cyril. Je me pose une question depuis que je te connais. Tu as tous les talents, metteur en scène, comédien, auteur dramatique, enseignant. Tu parles plusieurs langues. Tu es un remueur d'idées incomparables. Tu as même conçu et bâti autrefois un nouveau lieu de spectacle. Et j'en oublie. Ma question est donc, comment souhaites-tu qu'on te définisse ? Sur ta fiche Wikipédia, Jean-Cyril Vadi est un...
Ah, une fiche Wikipédia en direct.
Ah bah, il a été sympa, Claude-Henri. Il aurait pu être...
Ouais.
Je le reconnais bien, là. Il ne s'est pas laissé aller à plus de perversité, cette question, finalement. Alors, non, mais c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je veux vraiment qu'on me définisse. C'est peut-être une manière d'être indéfinissable que de faire tout ça et rien à la fois. Si je devais retenir qu'un seul mot, malheureusement, ça serait peut-être celui qui me représente le moins d'un point de vue extérieur. Mais si là, je ferme les yeux et je me dis, nous sommes en 2029, j'ai une fiche Wikipédia, je l'ouvre, je vois écrit « écrivain ». Et là, je suis trop content. Je me la pète, je suis hyper sympa, hyper avec tout le
Donc,
monde, jovial, je
extrême.
Serre la main à Claude-Henri comme un confrère. Et voilà. Mais là, je ne le suis pas.
Mmh. Ah non, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on a laissé quelques secondes de silence. Vous savez, c'est comme pour après la fin de Mozart, c'est encore du Mozart.
C'est ça.
Bon. Bien.
On repart dans une salve de questions.
Ouais.
C'est à vous, Jean? Ou c'est à moi?
Oui, enfin, c'est au choix. Là, il y a des trucs. Là,
heureusement. Il y a des trucs qui vous tarabustent.
Qu'est-ce que vous faites au CNES d'Avignon, le CNES? Moi, je croyais que c'était un truc pour les astronautes, non?
C'est un peu ça. Le Centre National des Écritures du
ah,
c'est Spectacle.
Ça
oui,
ah,
oui, ça n'est que ça,
oui.
Jean, ça n'est que ça. Malheureusement, je n'ai pas tourné en 5G, ou avec la gravité, là, les trucs.
Ah oui, oui,
pour
c'est
partir
ça.
Dans l'espace.
Et alors là, on vous enferme Comme
l'anachorète
de tout à l'heure, là, qui est mort et qui faisait des miracles, et alors on attend que vous fassiez un miracle, c'est ça?
qui ne s'est jamais produit. Oui, alors comment ça se passe? C'est une résidence d'écriture à la Chartreuse de la Villeneuve des Avignons.
Ah oui, je
non, mais
l'endroit, oui,
ceci
je
dit, cette cellule, c'était vraiment charmant d'y être enfermé. Elle faisait à l'époque, au moins, elle était deux fois plus vaste que mon appartement. Donc c'est une cellule qui n'avait rien de monastique, enfin, en tout cas, c'était pas austère du tout, pas spartiate. Hein. Une baignoire, une cheminée. Et puis, en fait, j'ai eu effectivement la chance quand même d'y avoir passé quelques semaines.
Et là, vous y étiez écrivain. Vous sentiez écrivain, non?
C'est ça, je fantasmais. Oui, tout à fait. J'avais amené quelques photos, voilà, d'auteurs, avec des petites bougies, comme Antoine Doinel dans Les 400 coups.
Voilà, vous la voyez, la ressemblance avec Antoine Doinel à la radio? Parce que nous, on la voit, ça le poursuit, ce garçon.
Et alors, Delphine Seyrig venait aussi?
Non. Ni Jean-Pierre Léo, ni... Non, mais... Et donc, j'ai écrit une pièce qui s'appelle « Je te connais depuis longtemps », qui ensuite, d'ailleurs, a été un retentissant échec à la MC2. Et donc, pourtant, les acteurs et moi gardons un impérissable bon souvenir.
Bon, et vous avez joué... Alors là, moi, j'étais sidéré. Vous avez joué le rôle de Bardami dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors là, franchement, vous ne mouchez pas du pied, vous.
Très bon.
Mais si, très il est souple, hein. Très bonne s'entend, ça se voit.
Très bonne expérience. Effectivement,
qui
Bardami,
est ce personnage?
C'est le personnage central du voyage, enfin, de Céline. C'est sans doute un peu autobiographique, derrière.
Pour nos auditeurs,
faire preuve d'humilité, nous étions quatre à nous partager le rôle de Bardami. C'est un peu une œuvre chorale. Hein. Je n'étais pas seul à incarner Bardami en disant aux autres « Excusez-moi, Bardami, c'est pour moi ». Non, nous avions partagé d'ailleurs avec Eddy, Thillette de Clermont-Tonnerre, qui est un ami et auteur aussi, metteur en scène acteur, de qui j'avais monté des textes, qui joue avec moi et c'est lui qui m'avait fait rencontrer Pauline Bourse, le metteur en scène de cette pièce. Voilà, avec Clara. Et puis, bon, bref, nous avions. C'était une très très belle expérience parce que dire du Céline, c'est quand même quelque chose. C'est autre chose que du Vadi.
Il vous en reste quelque chose là de Céline? À l'instant même?
Les répliques?
Ouais. À vous là? Pouvoir juste entendre là?
Oh là 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 là, alors attends.
Tout de suite ou pas?
Dans la langue de Céline.
Grand tyran nègre qui se vautre aux quatre coins des fleuves. Non, il m'en reste pas grand chose, mais il faudrait que je me replonge dans la pièce. Non, là, ça ne me revient pas comme ça. Mais...
Bon, mais
à part sur la France, les pouilleux, les chassieux. Non, mais si, j'ai quand même... Elle devait avoir dans les 20 ans la petite amie de... Enfin non, là, ça ne me revient pas. Mais bref, dire du Céline, c'était quelque chose. Parce que la Céline, c'est des règles de... Le sujet vient à la fin, au milieu, tout à coup. On ne sait plus si le mot qu'on dit est un... Voilà, où est-ce qu'on le place, est-ce que... Alors du coup, c'est une langue qui est à la fois très... qui se profère, qui est poétique, et en même temps qui est ultra concrète, très très dirigée, quoi. Donc c'est... Et puis c'est super de pouvoir avoir la liberté de même de dire le mot nègre sur un plateau sans que tout à coup on soit traité de fasciste ou bien voilà. Donc non, Céline, c'est quand même ça fait voyager.
C'est voilà. Un mot, ça.
Pardon ?
C'est un mot que
oui.
Céline fasse voyager.
Non, c'est vrai. Oui. Ça fait voyager au bout de la nuit. Non, mais c'était super. Non.
Oui. Et en plus, il a fallu que vous fondiez une troupe.
C'est vrai, qui s'appelait les Amis de Franck Nogent.
Mais pourquoi fonder une troupe?
Oh non. Pourquoi fonder une troupe ou pourquoi Franck Nogent?
Les deux.
Non, mais une troupe, c'était parce que je croyais à ce moment-là que c'était un peu le seul moyen de faire du théâtre, d'avoir une compagnie, de remplir des dossiers, de fabriquer du théâtre.
Et vous avez changé d'avis?
Depuis que j'ai plus de compagnie, oui, j'ai changé d'avis. On vieillit, Christine, on vieillit.
Oh non.
Alors, d'écrire des textes pour le théâtre, voilà. Mais de les mettre en scène, qu'est-ce que c'est que de mettre en scène? Qu'est-ce que ça fait de mettre en scène ses propres textes?
Je ne sais plus parce que je ne le fais plus. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Je ne sais pas si je savais, c'est très difficile parce que il faut se considérer comme étranger à soi-même pour pouvoir avoir une perspective, un nouveau point de vue sur un texte. Non, ce n'était pas la partie la plus dure. Je vois dans vos yeux que...
Oui, on en a parlé tout à l'heure, ça. Hein. Changer de personnalité, comme
non,
ça.
Non, mais, ouais, mais en même temps...
Comme on change de femme, c'est un rappel.
Il faut arriver à considérer son texte comme aussi faisant sens, étant intéressant, et pas se dire...
On se dit pas,
non, mais au bout de deux semaines de répète, qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de faire
ouais.
Je ferais mieux de monter Molière.
Mais qui c'est ce connard qui a pu écrire des trucs pareils?
Et d'accord, et d'ailleurs, elle parle de quoi, vos pièces?
Je te connais...
Si c'est résumable.
Si les gens qui nous écoutent pouvaient voir les gueules que vous faites quand vous me posez des questions.
Ouais.
Avec les sourcils
qui se
lèvent.
Mais ça se voit maintenant. Ça se voit à la radio.
Ah, ça se voit. Alors, c'est vrai que ça se voit. C'est pour ça que j'adorais les pièces radiophoniques. Moi, j'ai toujours aimé. Alors, en fait, ça parle de l'enfance. Hein. Je te connais depuis longtemps. C'est un père qui ne peut pas faire le deuil d'un enfant disparu qu'il a eu.
Ah,
qui a disparu. Et en fait, il va donc s'imaginer un scénario dans lequel cet enfant meurt, mais dans lequel il retrouve son corps et qui peut, et cet enfant qu'il peut venger. C'est, nous voyons donc sur la scène, en fait, une pièce qui se passe entre deux répliques. Hein. La première, qu'est-ce que tu vas faire ? Pièce de théâtre, il répond à la réplique. Donc la pièce se situe dans un temps dilaté qui se passe entre deux répliques. Et en même temps, un temps et quelque chose de fantasmé, puisque c'est quelque chose qui... Voilà. Sans qu'on sache vraiment d'ailleurs si cet enfant a existé ou si, à un moment donné, il ne rencontre pas plutôt l'enfant qu'il a été, plus que l'enfant qu'il aurait eu et qui a disparu.
Ah, mais c'est aussi beau qu'une interview dans Les Démons de Midi, quoi.
Ah non, mais c'est magnifique comme pièce. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été un échec horrible.
Ah, merci pour nous.
Mais non, mais la beauté est subversive, Christine, vous le savez très bien.
Ah,
Mais il arrive que la subversion connaisse des succès.
Ah, bon. Oui, c'est vrai, c'est un malentendu. C'est possible. Non, mais je dis ça, c'est une boutade, c'est pas pour ça que... Voilà.
Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Vadi, Jean-Cyril, dans votre vie et au-delà des bulles et de votre côté pop?
Pourtant, le titre Bulle Pop, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein.
Bon, alors c'est quoi ces Bulle Pop?
Bon, le Bulle Pop, c'est une superbe expérience que nous avons fait grâce à Jean-Paul Angot, justement, mais aussi Claude Henry, Chloé, Sébastien, qui était Laurent aussi, qui est directeur de com de la MC2, Martine, bon bref, l'équipe. Le concept dont j'étais un peu à l'origine, c'était de faire des vignettes un peu courtes pour parler des 50 ans de 50 dernières années.
Ouais, sinon 50 ans, c'est vraiment long. C'est vraiment
Ça peut être, voilà. Alors on s'est dit, voilà, un épisode, une bulle, un truc, une vignette sur un des événements. Puis on a décidé du coup, on trouvait que c'était bien de faire ça dans les bulles de la Bastille, parce que finalement ça parlait de Grenoble sans qu'on en parlait davantage, et puis on était dans la contrainte absolue de l'espace, hein, tu l'as dit, du temps aussi, parce qu'on s'est dit, ben voilà, le temps d'une montée ou d'une descente, il y a épisode. Et puis du coup, la récurrence des choses, voilà, on a quand même fait 25 ou 26 épisodes, donc c'était vraiment super. Ouais.
Et on peut revoir ça ?
Ah ben je crois, c'est sur Internet, il me semble, hein, sur le site de la MC2 peut-être, et il me semble, c'est possible aussi que ça passe un jour prochain ailleurs. Faudrait revoir avec Télé-Grenoble.
Télé-Grenoble, par exemple.
Parce qu'on a fait une émission là-bas, ça les branchait bien, quoi. Je n'ai pas suivi comment ça se passe, le processus. Parce que là,
en tous les cas, c'est drôle et ça démontre bien que le théâtre, qu'est-ce que c'est chiant.
Faut que tu piques virgule.
Ça n'engage que toi, Vérin.
Alors, changeons. Vous avez travaillé aussi avec la grande prêtresse Chantal Morel. Qu'est-ce que ça fait ?
Grande prêtresse. Chantal, si tu nous écoutes, sache qu'il n'y a aucune ironie dans les mots de Jean. Alors, notre hiérodule sacré, notre grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que ça fait ? D'une part, je vais vous surprendre, mais
oui.
je n'ai jamais autant ri qu'en présence de Chantal Morel, moi. Ah mais ouais, c'est-à-dire que...
d'abord, vous n'avez pas foutu une claque ?
Non, mais d'abord, c'est quelqu'un... Alors, c'est vrai que ça flatte un homme, mais c'est une femme que je fais beaucoup rire. Alors, c'est vrai que c'est très flatteur pour moi, mais c'est peut-être parce que, c'est aussi mon côté macho, mais j'ai l'impression que faire rire une femme, c'est déjà une victoire.
Oui, on connaît.
Non,
d'accord.
Après tout, j'ai le droit d'être un gars, hein, Eric. Et puis, c'est quelqu'un avec qui on a quand même échangé... c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Enfin, j'admire beaucoup Chantal. On a eu des échanges superbes. Puis elle m'a fait travailler au CLEPT avec elle, au Collège Lycée Littéraire pour tous. Puis j'étais venu donner la réplique aussi quand elle montait les Dostoïevski. Mais je n'ai jamais travaillé, j'ai jamais joué dans une pièce de Chantal Morel. Et voilà, je n'ai. Mais enfin, ça fait d'ailleurs longtemps que je l'ai pas vue. Voilà, je la salue. J'ai fait une émission de radio aussi avec elle, France Culture, je me souviens. Quand ils étaient venus au petit 38. Enfin voilà, c'est aussi une période de ma vie grenobloise hein, que j'ai laissée derrière moi, puisque j'ai quitté Grenoble en 2012, Jean, comme tu le sais bien, pour me rapprocher de Christine.
Qui s'en est éloignée.
Oui, ça a été une période très très pénible dans ma vie.
Alors vous parliez CLEPT, ça me fait penser à enseignement. Le théâtre, ça s'enseigne ?
Pas du tout.
Ah,
mais ça me rassure. Mais ça peut se transmettre.
Encore une supercherie.
Mais non, mais moi je suis. Non, ça c'est vrai que j'ai le syndrome. Il paraît que ça porte un nom, c'est le syndrome du type. Comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur? Je crois que j'ai le syndrome de l'imposteur.
Ah oui.
Moi. Oui, oui. Alors non, je pense que ça se transmet. Ça s'enseigne pas. D'ailleurs, j'avais remplacé Patrick Zimmermann au Conservatoire de Grenoble. Je me souviens en 2009. C'était assez compliqué, mais je pense que ça se transmet. Mais au sens vraiment, la transmission, c'est des trace de pas dans la neige, hein. Celui qui suit, il peut marcher dans vos traces ou regarder ce que ça fait de
glisser
quelqu'un
ailleurs.
Qui laisse des traces dans la neige et aller. Non, mais voilà, c'est pas, je pense pas que ça s'enseigne. Ou alors, non, je crois pas que ça s'enseigne vraiment, en fait.
Mais le transmettre,
moi, j'aurais jamais
aimez.
Pu l'enseigner, en tout cas. Puis je...
Le transmettre, ça vous plaît?
Je trouve que c'est très intéressant, ouais. C'est très intéressant parce que c'est un aller-retour constant entre l'objet, enfin, soi, la personne à qui on transmet ça, la manière aussi dont dont on considère en temps réel ce qu'on est en train de dire à la personne. Donc c'est toujours nouveau finalement la vision qu'on a de. Puis voilà.
Donc le théâtre, c'est pas si chiant. Je me
ça
contredis.
Ça peut ne
je
pas
me
être
contredis.
Si chiant, ouais, ouais. Ça peut.
Il y a aussi dans votre CV vraiment une expression qui m'a vraiment surprise. On peut scénariser la crise. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pourriez, par exemple, là, en un instant, nous scénariser avant que cette crise ne s'achève?
Vous êtes en crise, oui. mais oui, ça se scénarise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la crise?
C'est quoi la crise?
Oui.
Bah,
voilà.
Ah, oui.
Parce que bon, c'est pas du tout... Alors, est-ce que...
C'est un pic.
Pardon?
C'est un pic.
Mais c'est un pic, c'est une opportunité, d'abord. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que la crise n'est pas seulement un personnage d'une histoire, mais l'histoire elle-même? Est-ce qu'on ne peut pas considérer donc que nous sommes, dans la crise, un personnage nous-mêmes? Voilà, à égalité, pas sur le plan dramatique, mais sur le plan voilà, de cette caractéristique, avec la crise elle-même. Et si on considère ça, est-ce qu'il faut vraiment affronter la crise? Ou plutôt, est-ce qu'il ne faut pas plutôt, comme d'ailleurs un marin dans la tempête, se dire... voilà, c'est ça l'image. Si le marin, alors qu'il est dans la tempête, se dit que la tempête est un ennemi et qu'il doit l'affronter, il va casser son bateau. S'il dit en fait qu'il faut qu'il fasse un avec la crise pour la comprendre... la maîtriser, l'amadouer, je ne sais pas, hein, tout ça, et devenir un personnage de l'histoire que la crise lui propose de jouer, ça se scénarise, c'est génial.
C'est ça. Et c'est ce qui se passe pour vous dans l'entreprise,
ah, ouais, c'est génial.
Avec des vrais gens dans
avec
une
des
vraie
vrais
crise.
Gens dans une vraie entreprise. C'est ce que c'est une vraie entreprise, Christine. Oui, oui, c'est-à-dire que par exemple, on va dans une grande boîte, ça pourrait être Schneider Electric ici, ou ST Crawl Microélectronique, et on dit voilà, demain, on va faire une expérience, votre cellule de crise va vraiment se réunir tel jeudi à telle heure et on va vous proposer en fait un événement, on va vous dire, ben voilà, par exemple, un hacker a pris la main sur vos imprimantes. Et à partir de là, moi je vais scénariser tout un déroulé qui va se passer pendant la matinée avec
ouais,
un
c'est
calendrier
d'événements. C'est un jeu de rôle, quoi. C'est une espèce d'escape game.
Mais, d'escape game.
Espèce d'escape.
Elle est encore plus ringarde que moi, Christine.
Ah là là, voilà. Bah voilà, ça
une espèce d'escape game.
C'est ça. Ok, voilà. Okay. On s'échappe, oui, on s'échappe.
Heureusement
pardon.
L'émission est sous-titrée.
Pardon. Hein. Retournons dans la cellule. Prochaine
oui.
question.
Bah oui, comme ça. Quoi
mais j'ai répondu à la question, là.
Mais ouais, complètement. Oui, mais j'ai mieux compris.
Ah,
j'ai mieux compris.
Il devient clair. Mais il a fallu plus de 45 minutes pour commencer à devenir accessible. Ah là là, et en prison à Vars, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas prisonnier, vous y allez volontairement.
Je ne sais pas.
On retourne dans la
cellule.
Pour paraphraser le stalker, on est partout en prison, Jean. Non, je ne suis pas prisonnier. En fait, là, je dois cette expérience à la compagnie alternée qui m'avait un peu embarqué là-dedans, dans une co-animation d'ateliers d'écriture théâtre, enfin.
Et clown?
Clown, voilà, avec dans le secteur, la section, je ne sais pas comment on dit, des mineurs de la prison de Vars. Expérience assez complexe. Franchement, c'était pas... Ça a été assez difficile pour moi. Ouais, ouais, c'était très enrichissant, mais très
et
difficile.
Alors, on vous amène des prisonniers, puis vous dites, on va jouer la crise.
Ouais, c'est ça. Mais exactement.
Oui.
C'est ça. Non, mais c'est tout à fait ça, oui.
Mais
alors,
avant,
après,
on leur a pas fait prendre des produits avant, non?
Non, non, mais puis ils sont volontaires, mais en même temps, c'est pas vraiment... C'est une manière aussi pour eux... C'est une occasion pour eux de sortir de la cellule, puis de se retrouver, de se dire aussi un petit peu autre chose. Donc, ils viennent ici sans illusion et sans envie, vraiment. Et puis, nous, on essaye de leur rendre leur quotidien un peu plus supportable, qu'ils mettent des mots sur des choses... Voilà, alors à la fois sans les instrumentaliser, sans s'instrumentaliser nous-mêmes, en prenant conscience d'une part qu'est-ce que c'est que la prison, qu'est-ce que c'est d'être incarcéré à 17 ans en prison, mais comment on arrive en prison aussi, ou comment on évite
sort.
D'y arriver,
j'espère
comment
qu'on...
on sort, etc.,
ouais.
Dans quel état on y entre, comment on y sort, comment, à quoi on participe, enfin tout ça est assez complexe en fait, hein. Il faudrait 50 minutes.
Il faudrait
minutes
encore une petite heure de plus, et oui, voilà. Ah, ça y est, c'est déjà ce moment. Ça a passé très 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 vite, mais il faut quand même que nous enfilions la casquette de Jean. Alors dans la casquette de Jean, c'est pas facile hein, de passer la casquette de Jean et de se mettre dans la tête de Jean, mais on va y arriver un peu.
Il y a
du monde et il y a des questions. Ce sont de petits papiers, comme dirait Régine.
Et je vous laisse de votre main innocente, la droite ou la gauche, choisir un de ces petits papiers avec la question qui surgira et auquel vous répondrez dans les conditions du direct.
C'est moi que vous voyez, Christine?
Oui.
D'accord. Allez, ce sera
c'est
celle-ci.
C'est beau de vous voyer.
J'ouvre le papier d'une main innocente.
Ce n'est pas une papillote.
Non.
Mais c'est une friandise.
Voilà. Et merci d'avoir écrit ça en police de caractère 24 parce que j'ai oublié mes lunettes. Et je lis, si vous pouviez voler, que feriez-vous? J'imagine que c'est...
Ah, c'est comme vous.
C'est comme je vole. Alors, si je pouvais voler, qu'est-ce que je ferais? C'est une superbe question.
Oui.
Magnifique question.
Les autres aussi, d'ailleurs. Hein.
Non, mais celle-là, elle me touche particulièrement,
Jean. Ouais.
Parce que j'ai un faible pour les oiseaux. Et je dois avouer que si devais m'incarner dans un autre... si je devais être un autre animal qu'un homme, je serais un oiseau. Enfin, si je pouvais choisir. Donc, eh bien, je crois que je prendrais déjà beaucoup de distance avec notre monde-là.
Petit oiseau, gros.
Ah, je sais pas. Oh ben, un colibri peut-être, ouais. Ça c'est entre un aigle et un colibri, mais ça serait soit un aigle, soit un colibri, mais pas ou alors un oiseau migrateur. Non, je pense que je survolerais
la Lituanie, par exemple.
Non, mais la terre entière, en fait, je crois. Je j'aime bien l'idée. J'aime bien le colibri qui se pose assez peu finalement. J'aime bien l'aigle aussi qui domine complètement tout ça là, dans les hauteurs et qui, pour paraphraser Nerval, est le seul capable de regarder le soleil et la gloire. Mais voilà, j'aime bien l'idée des oiseaux migrateurs. Voilà, c'est tout. Je volerai. Hein. Je ferai rien d'autre que ça si je pouvais voler. J'en profiterai.
Sans jamais vous poser. Ça vous ressemble, cet oiseau me dit quelque chose.
Si c'est pour que ça me ressemble,
quel
ça vaut pas la peine.
Quel animal, se va dire quel animal.
Oh, puis on
fait. Ta question.
Et là, vous croyez vraiment qu'on prend un petit peu de temps pour le moment lamentable de l'émission?
Oui.
Bon, alors, on vous a demandé, si vous voulez bien, si c'est possible, de nous faire écouter un morceau, un truc minable, moche, affligeant, qui ne devrait pas passer à la radio passer sur Radio Campus.
Christine, tellement de choix.
Et qu'est-ce que vous avez choisi?
Non, mais là aussi, c'est pour...
Qu'est-ce qui est
comme
moche
pour
vous?
Pour la première question, le choix est difficile. En fait, j'ai choisi une chanson qui est l'exact opposé de la chanson qu'on a écoutée avant, Gabriel Yacoub. D'ailleurs, il y a aussi du piano dans celle-ci. Et voilà, je vous laisse écouter Delerme. Moi, je vais m'abstenir de le faire.
De chanter.
Si vous voulez couper, c'est possible. Sinon, à tout à l'heure.
Ah, vous n'aimez pas de l'herbe?
On va
pouvoir
en
discuter.
Écoutons.
Bon, allez, on écoute.
Ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, il y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos pour Noël. Si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. J'suis prêt à faire des concessions.
Alors, tant pis pour ceux qui n'aiment pas de l'air mais qui nous écoutaient. C'est vrai que c'est une espèce de caricature qu'on entend là. C'est pour ça que vous n'aimez pas ou
bah, alors d'abord, je m'excuse pour ceux qui l'aiment, hein, parce qu'ils n'ont pas pu l'écouter. Mais bah, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est comment dire, c'est les chanteurs pour paraphraser un poète et ami Alain Klinger, c'est des chanteurs pour bobos, des chanteurs pour bobos qui deviennent des chanteurs pour bobonnes. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement l'inverse de Yacoub. C'est-à-dire qu'il ne sait pas chanter. Il se fredonne des trucs qui sont des... Je ne sais même pas comment il écrit, moi. Voilà, c'est donc ça... C'est pauvre musicalement, c'est tellement... C'est caricatural sur le... Enfin bref, c'est... Puis c'est aussi un fils d'eux. Malgré tout, ça ressemble aussi à ça. Ce truc parisien, finalement, ça raconte ce que la chanson est devenue, je crois. Ça ne m'ouvre aucun espace intérieur, ça me rapetisse. Enfin, c'est inintéressant, totalement inintéressant. Merci Vincent d'avoir fait des chansons.
Ce que la chanson est devenue.
Enfin, ce que, voilà, c'est, ce qu'elle
elle était mieux avant.
Ah ben moi, de toute façon, je pense comme Philippe Muret que non seulement c'était mieux avant, mais c'était mieux toujours. Mais bon, on n'est pas Brassens qui veut, Jean.
Ça, je suis bien d'accord.
D'ailleurs, vous aviez hésité avec Brassens, entre Yacoub et Brassens.
Oui, mais je me suis dit finalement c'est trop facile Brassens d'une certaine manière, parce qu'évidemment Brassens... Évidemment, toutes les chansons de Brassens, de l'Amandier, en passant par voilà, La Princesse et le Croque-Note. Mais Yacoub, c'est de ce fait-là un peu plus personnel dans mon chemin. Et puis, on l'entend quand même moins. Je crois que ça valait le coup de l'entendre.
Merci. Ah oui, oui, c'était une découverte. Et puis, savoir rester ici.
Oui, c'est aussi pour ça que
rare
je l'ai choisi.
De l'entendre. vous avez d'autres petites choses à demander, Jean, à notre invité
oui,
et prisonnier
une dernière
avant
question,
qu'il ne s'échappe.
Une dernière question pour la route.
Allez-y,
oui.
Vous laissez-le s'échapper après.
Qu'est-ce que vous faites encore et qu'on a oublié de vous demander?
Eh oui, par exemple.
Alors, bah, je fais pas mal de choses.
Oui, ça on sait, mais en plus.
Non, c'est quoi
mais...
l'actu
en fait,
de l'actu
pas... Alors,
l'actu
qui tue, en ce moment, bah, c'est justement, je suis en train de recopier, mais alors vraiment comme un copiste, le journal que je tenais quand j'avais 20 ans en Lituanie, parce que j'ai noirci des carnets, je voulais les sauver d'un énième
carton
des
de déménagement
qui les aurait perdus. Et donc là, je suis en train de les recopier, donc je suis en train de reprendre contact avec celui que j'étais à 20 ans pour me rendre compte que parfois j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, c'est marrant. Et puis sinon, ben, je suis toujours sur mon Maradona, là, qui est un projet un peu qui revient comme l'Arlésienne.
Mais Maradona, c'est le foot ?
Oui, oui, mais c'est pas que. Maradona, c'est Naples, c'est la sirène Parthénopée qui fonde Naples. Maradona, c'est la pauvreté, c'est les icônes, c'est la Vierge Marie, c'est tout ça, Maradona.
C'est un miracle ?
C'est un miracle en soi, Maradona.
Avec la main.
C'est Dieu fait homme, c'est l'église maradonienne. Ah ben non, mais Maradona a marqué de la tête, c'est Dieu qui a marqué de la main, Jean. Enfin bref, voilà. Donc, et puis sinon, bah, je fais l'amour, j'ai des enfants, je vais au marché. Je fais tout ça quand même, voilà, dans le désordre. Je fais plein de choses.
Et Maradona, ça sera une pièce,
théâtre.
Un film, les deux,
je ne sais pas,
une pièce radiophonique.
Une pièce radiophonique, ça serait merveilleux. Peut-être une pièce qui n'aura plus aucun rapport avec Maradona, mais sans doute avec la vie éternelle et la résurrection. Parce que Maradona, c'est aussi ça, c'est un homme qui ressuscite. C'est un peu le... Voilà, les Argentins qui sont quand même qui ont ce pouvoir de fabriquer des mythes, de Eva Perón en passant par Che Guevara et Maradona. Ceci dit, nous, on a Depardieu qui n'est pas sans lien avec Maradona. Hein. Voilà, dans son...
Oui, tiens, ça, c'est une
il
idée.
Il pourrait l'incarner
crois, complètement.
Bah oui, dans le côté charnel, comment Depardieu a incarné lui-même quelque chose de l'innocence et du Christ et de l'excès, enfin bref. Voilà.
Bon, ben j'espère que Depardieu nous écoutait. Et puis vous aussi, bande de démons.
Gérard, salut à toi.
On s'arrête là ?
Bah oui, je crois.
Ah ouais. Bon, bah.
Moi, j'ai trouvé que c'était
bien.
Ramener à Vars,
c'était bien, c'était
même.
Bien. Nous étions donc parmi les démons. Et c'était midi. On était à Saint-Martin-d'Hères, à Saint-Tégrève, à Saint-Madonna, à Saint-tout ça, quoi. Merci à.
Merci Christine, merci Jean-Marie Chris.
Merci à Jean-Cyril Vadi. Merci à nos auditeurs. Alors, eux, vraiment, ils sont formidables.
Et Christine, qu'est-ce qu'on dit au mois de janvier ?
Ah, mais ! Alors, ça, j'avais complètement oublié. Hein. Alors, je vous souhaite. Une bonne année 2019. Allez, que tout soit neuf et qu'on recommence le mois prochain. Restons déments, quel que soit le temps, qui passe ou qui passe pas, ou que l'on fait.
Et merci Claude Henri pour ta question.